CDI Podcast. Entrepreneur de légende.
Bonjour à tous et bienvenue dans Entrepreneur de légende, le podcast qui vous raconte l'histoire de ces personnalités parties de rien et qui ont changé le monde. Je suis Mickaël Icard, journaliste pour CDI Média, et avec moi, Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès. Bonjour Sylvain.
Bonjour Mickaël.
Alors aujourd'hui, on raconte l'histoire d'une des sociétés danoises les plus connues au monde, puisque nous allons parler de Lego. Son fondateur, Ole Kirk Christensen, est ce qu'on peut appeler un champion du recyclage d'activités et de la persévérance. Alors Sylvain, on y va, on va vous raconter comment tout s'imbrique jusqu'au succès.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.
L'histoire de Ole Kirk Christensen commence en 1891 à Filskov, dans le centre du Danemark.
Oui, en effet, donc il est né en 1891 dans une petite bourgade au centre du pays, dans une famille très modeste, d'agriculteurs très modestes. Il est le 10e enfant de cette famille. Donc, assez jeune, il aide au travail des champs, il va à l'école jusqu'au, on pourrait dire, le certificat d'études, si on veut une espèce de comparaison avec ce qui a pu exister en France. Mais il passe beaucoup de temps à travailler, tout son temps libre, en fait, toutes ses vacances, il travaille à la ferme. Et notamment, il développe un intérêt pour le travail du bois. Donc, autant l'activité d'agriculteur l'intéresse pas trop, mais le travail du bois l'intéresse beaucoup plus. Et il se trouve qu'il a un frère menuisier. Donc, assez jeune, il va suivre une formation de menuiserie, donc avec son frère, et il s'oriente dans cette profession, et d'ailleurs, il va aller travailler en Allemagne, dans différents endroits du Danemark, et ça devient vraiment son centre d'intérêt, sa profession, il veut faire uniquement de la menuiserie. Et donc, en 1916, il reprend une petite PME de charpente et de menuiserie, donc à Billund, je ne sais pas si je prononce parfaitement bien en danois, mais enfin, on va dire Billund. Donc c'est une petite ville, pas très loin de son lieu de naissance, donc on est toujours dans le centre du Danemark, et il s'installe comme charpentier.
Et donc les années qui suivent, en fait, elles sont loin d'être joyeuses et de tout repos.
Oui, alors c'est vraiment une toute petite entreprise avec quelques salariés, une petite PME, on dirait. Et alors il y a des moments de croissance d'activité, c'est une entreprise qui arrive à se développer, mais avec plusieurs crises, notamment un incendie, on pourrait dire un premier incendie en 1924.
Donc pour une entreprise de bois, c'est...
Voilà, donc c'est une entreprise de bois dans des bâtiments en bois. Donc on le verra, l'entreprise a eu plusieurs incendies au cours de son histoire, mais là il y en a un premier en 1924, donc qui met un coup d'arrêt à l'activité. À la fin des années 20, l'activité repart, les bâtiments sont reconstruits, mais après arrive la crise de 1929, qui frappe aussi le Danemark, donc là l'activité ralentit très fortement, et il y a aussi un drame familial, puisque sa femme meurt en couche, et donc il se retrouve seul, avec 4 enfants à élever, et une entreprise qui commence à battre de l'aile. Donc effectivement, c'est pas de tout repos pour Ole Kirk Christensen.
Et c'est là où il a l'idée, puisque du coup il n'arrive pas à vendre son stock de bois, et il décide donc du coup de le recycler en jouets.
Voilà, donc il a beaucoup de bois dans ses entrepôts, dont il ne sait plus trop quoi faire, puisque les commandes de charpente et de menuiserie diminuent de plus en plus. Et donc il commence à bricoler des jouets en bois, de manière totalement, on peut dire, autodidacte. Hein. Il n'a jamais avant réfléchi au marché du jouet, mais bon, il se rend compte en fait que les parents, même en période de crise, ils économisent un peu sur tout pour quand même acheter de temps en temps un jouet à leurs enfants. Donc en fait, même en période de crise, le marché du jouet, en tout cas à cette époque au Danemark, je ne sais pas si ça se vérifierait aujourd'hui, mais il résiste plutôt bien à la crise. Donc du coup, il développe en parallèle une petite activité de jouet qui, au début, il pense juste que c'est une activité transitoire, un peu pour passer la crise, et en fait qui commence à prendre, qui marche, alors on va pas dire bien parce qu'on est quand même dans une période de crise assez violente, mais enfin qui lui permet de faire tourner son entreprise, on va dire.
Mais il ne gagne pas obligatoirement beaucoup d'argent avec.
Non, il gagne pas beaucoup d'argent, il y a même parfois des jouets qui troquent en fait contre un peu de nourriture à des paysans de la région, parce que même si les gens ont envie d'acheter des jouets à leurs enfants, en période de crise, l'activité a quand même du mal à vraiment décoller fortement.
Et il y a notamment l'anecdote sur la mode du yo-yo, où du coup ça devient la mode et tout le monde lui demande de construire des yo-yo.
Oui, il y a un moment au milieu des années 1930 où le yo-yo devient brusquement à la mode. Donc il construit plein de yo-yo parce qu'il a un marché. Et la mode disparaît en quelques mois aussi vite qu'elle est venue. Donc alors il recycle comme il peut ses yo-yo en roue de camion. Mais il en garde une leçon qui est qu'en fait, il ne faut pas suivre les modes. Il faut essayer de faire des jouets, des produits intemporels. Pas essayer de faire un coup sur les 3 prochains mois ou la prochaine année. Mais se dire quel produit peut marcher sur les 50 prochaines années. Et ça, ça va en partie influencer la stratégie future de l'entreprise.
En 1932, il décide d'abandonner la charpente et en 1934, il décide de lancer le nom de la marque.
Voilà, donc petit à petit, au milieu des années 30, ce qui n'était pas prévu, c'est qu'il va basculer entièrement sur le jouet. Il va abandonner la charpente petit à petit pour se consacrer sur le jouet. Et donc en 1934, il renomme son entreprise Lego. Donc alors pour les Français, ça veut rien dire, mais en danois, Leg, c'est jouet et God, c'est bien. Donc en gros, Lego, ça, c'est une contraction de bien jouer, en fait, on peut dire.
Et c'est à la même période où il est rejoint par son fils, Gottfried, de 14 ans.
Oui, donc Lego, c'est une entreprise familiale, donc fondée par donc Ole Kirk. Ensuite, il y a eu son fils, plusieurs de ses fils qui ont rejoint l'entreprise, notamment Gottfried qui l'a dirigé. Ensuite, le fils de Gottfried va à nouveau reprendre l'entreprise. Donc c'est vraiment une aventure familiale, Lego. Et donc c'est Gottfried vraiment un rôle important dans l'entreprise, parce que c'est lui qui va avoir plusieurs intuitions, notamment de développer l'entreprise vers les jouets en plastique au lendemain de la guerre. Donc Lego a passé la guerre un peu tant bien que mal, puisque l'entrepôt a brûlé à nouveau en 1942. On verra que c'est pas la dernière fois que ça arrive. Mais au lendemain de la guerre, le plastique est un nouveau produit qui commence à se développer. Et Lego est une des premières entreprises danoises à se positionner sur ce nouveau matériau et à commencer à faire des jouets en plastique.
Et donc du coup, plusieurs jouets en plastique sortent des usines de Lego. Et en 49, il y a la première brique qui sort d'une usine avec une innovation sur ce qui se faisait déjà.
Voilà, donc en 1949, Lego crée la première brique en plastique avec les petits crampons, un peu comme on les connaît aujourd'hui, pour que les briques puissent s'emboîter l'une dans l'autre. Donc c'est plus seulement des cubes qu'on empile, mais avec ces crampons, eh bien, la structure a beaucoup plus de solidité. Et donc ça permet aux enfants de bâtir des maisons, des bâtiments beaucoup plus complexes et beaucoup plus réalistes en fait.
Mais c'est un échec.
Oui, alors ça prend pas du tout au début. Les briques Lego ne prennent pas du tout. Les autres jouets marchent plutôt bien. Notamment, il y a un tracteur en 1951 qui marche très bien et qui est très intéressant parce que le tracteur, pour des raisons purement pratiques, il est livré pas entièrement fini. Donc c'est aux enfants, avec l'aide éventuellement de leurs parents, de finir d'assembler le tracteur.
Ah, il est en pièces détachées.
Il est en pièces détachées. Et en fait, ce dont se rend compte Lego, qui n'était pas du tout anticipé, c'est qu'en fait les enfants aiment beaucoup ce travail d'assembler leur tracteur. Et donc ça leur donne des idées. L'idée, c'est un peu de se dire, bah oui, les enfants n'ont pas forcément envie qu'on leur donne un jouet tout fait, prêt à être utilisé, disons, mais le fait de construire son jouet fait partie du jeu, en fait. Et donc ça renforce l'idée de Gottfried de se dire qu'avec ses briques, il tient un bon filon, il tient une bonne idée.
Et la même année que sort ce tracteur, en 1951, c'est aussi l'année où Ole Kirk est malade et il décide de laisser son fils à la manœuvre de l'entreprise.
Voilà, donc en 1951, c'est Gottfried qui reprend les rênes de Lego. Donc c'est déjà une grosse PME, il y a une grosse centaine de salariés. Donc il fait des jouets à la fois en bois et un peu en plastique. Mais Gottfried, lui, il est convaincu que sa brique en plastique, elle a de l'avenir. Alors il est convaincu un peu contre tout le monde, hein, contre les autres membres de sa famille, contre les clients. Il est un peu seul à creuser son sillon, mais il s'obstine. Et en 1958, il fait évoluer sa brique, puisque la première brique Lego était assez rudimentaire. En 1958, il crée une nouvelle brique qui fonctionne mieux, en fait, qui s'imbrique mieux, et qui n'a pas changé depuis. La brique de 1958 est toujours la même aujourd'hui, la brique standard, hein, est toujours la même, elle est toujours compatible avec les briques qui existent aujourd'hui en 2021.
L'objectif était donc de faire des briques de meilleure qualité que ce que pouvait faire la concurrence et d'avoir une sorte de jouet éternel.
Voilà, donc c'est vraiment l'idée d'un jouet qui peut durer sur les décennies. Donc c'est une stratégie qui est très différente de beaucoup d'entreprises, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises, leur stratégie, c'est toujours d'amener un nouveau produit, un nouveau gadget, quelque chose de nouveau. Et Lego, c'est exactement l'inverse. C'est d'essayer de créer un produit intemporel. Donc il y a la brique de 1958, on peut la retrouver au fin fond d'un grenier de son père ou de son grand-père, Et ben un enfant d'aujourd'hui peut toujours y jouer. Donc il y a vraiment cette idée.
Et il peut même la mettre avec des briques actuelles.
Elle est toujours compatible, elle peut toujours s'emboîter avec les briques actuelles. Et ça, c'est une des grandes forces de Lego. Et l'entreprise a vraiment toujours fait attention à la compatibilité de ses produits au fil des décennies.
Et donc l'année de la sortie de cette brique, 1958, ça marque évidemment le décollage de Lego, mais c'est aussi le décès d'Oli Kirk.
Voilà, donc le fondateur décède cette année-là. Il n'aura pas pu voir le succès de Lego tel qu'on le connaît aujourd'hui. Lui, il aura connu Lego avant tout des jouets en bois, le tout début du plastique. Et donc 2 ans plus tard, en 1960, il y a un nouvel incendie dans l'entreprise de jouets. Donc la partie qui faisait les jouets en bois est complètement détruite par un troisième incendie. Et à ce moment-là, Godfred prend la décision assez téméraire d'arrêter totalement les jouets en bois et de ne plus faire que des jouets en plastique, ce qui est assez téméraire parce que à cette époque-là encore, la division bois de l'entreprise, c'est celle qui marche le mieux. Mais lui, il fait le pari que l'avenir, il est sur ses briques en plastique. Et donc, vu que l'usine de jouets en bois a été détruite par un incendie, il ne la reconstruit pas et il met tout son argent pour développer ses briques Lego en plastique.
Et il ne crée pas seulement des briques, puisqu'il décide aussi de créer des univers autour de ces briques, et c'est ce qui marqua le succès de Lego.
Voilà, donc au début, Lego ne faisait que des briques, mais bon, c'était un peu rudimentaire, donc après, ils ont fait des briques un peu différentes pour que les bâtiments puissent être plus réalistes, mais petit à petit, ils vont développer tout un univers autour de Lego. Ils vont faire des panneaux indicateurs, ils vont faire des arbres, ils vont faire un peu plus tard des personnages, pour qu'il n'y ait pas seulement juste des briques, mais que l'enfant puisse vraiment recréer un univers, un système de jeu autour de Lego.
Et donc l'histoire de Lego sera ponctuée de petites innovations, de petites avancées ou même de diversification.
Oui, alors des diversifications parfois totalement inattendues. Donc je pense notamment à Legoland, donc ces parcs d'attractions Lego qui sont nés de manière totalement spontané. Donc l'anecdote, c'est que Lego faisait un petit peu de tourisme industriel, donc c'est-à-dire qu'il faisait venir des clients, des visiteurs dans ses usines.
Ça se faisait beaucoup.
Ça se fait toujours d'ailleurs dans certaines usines, hein, le tourisme industriel. Et Godfred n'aimait pas trop ça parce qu'il voyait tous ces gens déambuler au milieu de ses ouvriers et de ses machines, donc ça ne lui plaisait pas. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il y avait une sorte de terrain vague, de champ à côté de l'usine, et il s'est dit, bon ben voilà, on va mettre là des Lego, on va mettre 2-3 machines pour montrer comment on produit, hop, et on va mettre tout ça dans le champ. Mais pour lui, c'était vraiment presque un moyen de s'en débarrasser. Et en fait, ça marche super bien. Tout le monde vient de tout le pays, même de l'étranger, pour visiter cette espèce de Legoland, qui à l'époque s'appelait pas comme ça, mais cet ancêtre de Legoland. Et au même moment, il y a tout un tas de gens, notamment une cousine de Godfred, qui en fait utilisent Lego presque comme le support de création artistique, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'au lieu de faire simplement des petites maisons comme le font les enfants, eh ben, ils vont faire des grandes figurines, des grands personnages, des grands bâtiments qui vont essayer de reconstituer grandeur nature ou presque, et qui vont exposer donc dans ce premier Legoland, ce premier champ en fait. Et ça marche extrêmement bien, les visiteurs affluent de plus en plus. Et donc en fait Lego ouvre alors un premier Legoland au Danemark, ensuite plusieurs dans le monde entier. Et ce qui est en fait une excellente stratégie de communication, puisque du coup ils communiquent sur leurs produits, les gens viennent au parc, payent pour venir au parc, et au parc ils voient plein de Lego, et après ils ont évidemment, en tout cas les enfants, envie d'acheter des Lego.
S'en suivent donc du coup quelques innovations niveau jouets dans les années 60-70.
Oui, donc en 69, il y a les Duplo. Donc comme leur nom l'indique, Duplo, donc c'est 2 fois plus gros. Donc c'est des briques qui sont toujours compatibles, mais 2 fois plus grosses, donc qui sont à destination des plus petits enfants, notamment pour qu'ils puissent pas les avaler et s'étouffer. Il y a aussi les Lego Scala, qui s'appelaient à l'époque, et c'était des Lego pour les filles, donc avec des couleurs roses, etc. Il n'y avait pas encore toutes les théories sur le genre, il faut pas genrer les jouets, etc. Là, c'était clairement des Lego roses,
c'était pour les filles,
avec quoi. Des cuisines à destination des filles. Là, c'était totalement, la cible était totalement assumée. Et dans les années 70, il y a les personnages qui apparaissent. Donc en 74, les premières personnages Lego qui n'ont pas très bien marché parce qu'ils étaient très grands, n'étaient pas très réalistes en fait. Et en 78, les premiers bonhommes Lego sont créés tels qu'on les connaît encore aujourd'hui. Donc c'est des petites figurines assez neutres d'expression, assez neutres de couleur de peau, qui en fait peuvent s'adapter à tous les enfants dans tous les pays et un peu à toutes les époques en fait.
Et donc du coup Lego grandit, petit coup de mou fin des années 90.
Oui, alors à la fin des années 90, c'est une période où se développe beaucoup le jeu vidéo, les technologies Internet, etc. Et donc les Lego, qui sont un jouet donc, assez intemporel, hein, c'est d'ailleurs le but de l'entreprise, c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Donc il y a un petit coup de mou dans les années 90, puisque Lego semble un peu poussiéreux vis-à-vis des jeux vidéo. Mais l'entreprise a su rebondir, notamment en développant des licences. Donc il y a eu les Lego Star Wars, il y a eu Lego Pirates des Caraïbes, il y a eu Lego Harry Potter, et c'est des licences qui ont très bien marché, alors qui coûtent cher à obtenir, mais qui ont très bien marché, et qui ont vraiment permis à l'entreprise de se développer jusqu'à devenir le numéro un mondial du jouet devant l'américain Mattel.
Et la marque est même devenue un emblème et un phénomène de société.
Oui, bien sûr, il y a dans le monde 86 briques Lego par habitant. Donc c'est gigantesque. Et Lego, d'ailleurs, c'est devenu un peu ce qu'on pourrait appeler un branduille, c'est-à-dire qu'on utilise le mot Lego pour désigner toutes les briques avec lesquelles on construit, qu'elles soient ou pas de la marque Lego, d'ailleurs.
Un branduille, donc, c'est on utilise le nom d'une marque pour désigner un objet.
Voilà, comme un Kleenex ou un frigo, par exemple.
Pour finir, on peut dire que Ole Kirk Christensen avait pour ambition de rendre les enfants heureux en leur proposant un jeu calme, non violent, qui leur permettent de stimuler leur imagination, et on peut dire qu'il a réussi son pari.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. 6 briques Lego de 2 x 3 crampons peuvent s'assembler de 915 millions de façons. Donc c'est un jeu à peu près illimité.
Merci Sylvain.
Merci Mickaël.
Et puis évidemment, on peut retrouver tous ces portraits passionnants qu'on vous présente en podcast dans ta série de livres Entrepreneurs de légende, dont le tome 2 vient de sortir en ce moment partout dans toutes les bonnes librairies ou sur internet. Je vous laisse chercher, mais vous les trouverez facilement. Nous, on se retrouve dans 15 jours, Sylvain, pour présenter un nouveau portrait sur CDI Podcast ou toutes les plateformes audio. À bientôt.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.